Merci à l'ami et collègue Alex Laramé pour ce Top Corner. Question de faire un petit tour de ce qui se passe dans le sport aussi. Et on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission parce que c'est journée de repêchage dans la Ligue nationale. Donc, il y a énormément de mouvements. C'est un sujet qui a capté notre attention à toute l'équipe, tous les membres de l'équipe ce matin. C'était un article dans le journal qui parlait de propriétaires qui, eux, lèvent la main pour aider les gens qui sont en situation d'itinérance, qui sont sans domicile fixe ou qui sont en loyer ou en logement maintenant, mais qui, là, voient la date butoir du 1er juillet arriver et il n'y a pas de plan B, là. Il n'y a pas de prochain logis, il n'y a pas de toit sur leur tête. Et Antonine, en faisant quelques recherches, t'es tombé sur deux perles qu'on a la chance d'avoir ici dans la ville de Québec. Nathalie Giguère, qui est directrice générale chez Pêche. Bonjour, merci d'être en studio, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Et Marie-Ève Ouellette, qui est coordonnatrice du programme Porte-Clés.
Bonjour.
Bienvenue en studio, merci aussi de prendre le temps de venir nous expliquer un peu quelles sont vos missions, parce que c'est un article qui parlait principalement de propriétaires du côté de Montréal,
oui.
Qui, eux, lèvent la main en disant « Hey, vous savez, avec ce qui se passe en ce moment puis avec la crise qu'on vit actuellement, nous, on est propriétaires de portes puis on est prêts à donner un coup de main. À partir de là, comment ça fonctionne pour que nous, on soit supportés aussi? » Puis j'étais content d'apprendre aujourd'hui qu'on a ça aussi dans la ville de Québec.
Oui.
Le programme qui s'appelle Porte-Clés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce programme-là? Parce que Nathalie Giguère, je vous ai présenté comme étant directrice générale.
Adjointe.
J'ai oublié de dire le
on
adjoint.
On donne des promotions. Désolé, de mon côté,
le directeur général.
C'est vendredi, profitez-en. Oui, les promotions sont là. Mais parce que vous êtes une des instigatrices de ce programme-là, qui est le programme Porte-Clés. Ça consiste en quoi, ce programme-là?
Absolument. En fait, le programme Porte-Clés existe depuis 2015. Depuis 2015, on s'adresse à une population itinérante, chronique et épisodique. En fait, c'est des gens de la rue qui sont là depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans dans la rue. Puis notre travail consiste à intégrer les personnes itinérantes en logement, dans des logements stables. Notre seul objectif, c'est d'intégrer les gens qui soient bien, qui soient heureux le plus longtemps possible dans leur logement. Alors, on a depuis 2015, on a intégré 440 personnes en logement depuis 2015.
Okay.
Et la réalité de Québec, c'est qu'on est 8 organismes communautaires qui sont regroupés ensemble pour faire une différence à Québec. 8 organismes qui travaillent en concertation pour faire une différence en itinérance. Puis c'est une solution vraiment intéressante pour les gens, personnes itinérantes à Québec. Un taux de réussite de 85 % quand même depuis le début.
C'est quand même gros, ça, 85
% fière,
en 10 ans, 11 ans presque. Comme coordonnatrice, ton quotidien, ta journée type, Marie-Ève, ça ressemble à quoi? Surtout là, à ce temps-ci de l'année, étant donné qu'on en parlait tantôt, le 1er juillet arrive, là, c'est demain matin, là, on cligne des yeux puis on est rendu là. Mm-hmm. C'est probablement une période de l'année qui est excessivement débordée pour vous.
C'est sûr que pour nous puis pour toutes les personnes de l'équipe Porte-Clés, c'est quand même une grosse période là, qu'on a à chaque année qui revient tout le temps. Voyez-vous, cette année, on va intégrer peut-être 10-13 personnes en logement. Mais quand même, dans les derniers mois, à chaque mois, on a plusieurs personnes qu'on intègre en logement tout le temps. Mais là, c'est sûr que la semaine prochaine, c'est ça qu'on fait. Là. On aménage des personnes en logement. On s'assure que les personnes aient tous les meubles dont ils ont besoin. Quand on va partir, que leur rideau de chambre soit installé, leur base de lit soit montée, que leur vaisselle soit dans leurs armoires pour qu'ils puissent passer la première nuit dans leur nouveau chez eux. Oui, ça va jusque-là, ce qu'on fait
pour
les personnes.
Puis pour que ce soit un succès, j'imagine qu'ils reçoivent aussi d'autres services parce que c'est pas parce qu'on trouve un logement que tout est nécessairement réglé du jour au lendemain?
C'est sûr qu'une des particularités aussi du programme Porte-Clés, c'est que ça vient avec un suivi. Fait qu'ils ont accès à des intervenants. Il faut que la personne accepte d'avoir accès à des intervenants, de les laisser entrer chez elle aussi, dans son domicile, dans son intimité. Au début, on voit les gens une fois par semaine, puis on essaie vraiment de prévenir, en fait, de voir les enjeux poindre avant que ça devienne comme trop un gros problème. Puis d'aider les personnes à apprendre finalement la vie en logement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette expérience-là dans leur vie. Là.
Puis là, vous parlez de l'accompagnement après. Mais moi, je suis curieux de savoir le avant, comment ça fonctionne. Parce que tu sais, on parlait de Pêche, qui est un super organisme aussi. Mm-hmm. J'aime ça parce que vous vous présentez comme étant des réanimateurs.
Réanimeurs
d'espoir.
Oui.
Vous êtes là en soutien psychologique face à des gens justement qui vont vivre, comme vous disiez tantôt, là, de façon permanente ou de façon épisodale, des moments où on se retrouve dans la rue. Puis, tu sais, un ami à moi proche m'a déjà dit ça, tu sais, on est à 3 mauvaises décisions, des fois, dans la vie, ou 3 décisions qui sont hors de notre contrôle, malheureusement, d'être PDG d'une entreprise puis finalement se retrouver dans une tente peut-être quelque part dans le parc linéaire de la Saint-Charles, ça se peut. Comment on sélectionne ces personnes-là avant? Est-ce que vous travaillez de pair justement avec pêche et porte-clés pour dire cet individu-là serait prêt à passer à la prochaine étape?
Mais dans le fond, pêche est un des organismes qui fait partie du programme porte-clés. Tantôt, Nathalie disait qu'on est 8 organismes communautaires. Nous, on fait la coordination. Les références qu'on reçoit, c'est souvent des références qui vont venir des organismes partenaires, mais ça peut être aussi d'autres organismes. Par exemple, je pense à la Coop SAPSA qui accompagne au niveau de la santé physique. Mm-hmm. Des personnes plus marginalisées peuvent aussi nous référer. C'est sûr qu'on reçoit énormément de demandes. Voyez-vous, dans la dernière année, on a reçu peut-être 120 demandes. Okay. On a sélectionné 43 personnes qui sont rentrées en logement. On essaie vraiment de sélectionner au mieux, d'avoir comme un momentum. Là, la personne, il s'est passé quelque chose, elle veut changer sa situation, elle a nommé clairement avoir un désir d'entrer en logement. Des fois aussi, on va privilégier des personnes qui, par exemple, on sait qu'ils ont eu un diagnostic de cancer, le pronostic n'est pas bon, ils sont dans la rue présentement. On va leur offrir un logement pour terminer leur vie dans la dignité. Des femmes victimes de violences conjugales, des jeunes femmes victimes d'exploitation sexuelle. Fait qu'on arrive, on essaie vraiment d'aider le plus de personnes possible, mais en fonction du meilleur timing, dans le fond. Là.
Ouais. Puis, si on est propriétaire, là, on a un logement, je vous écoute parler, c'est quoi le processus et est-ce que les propriétaires peuvent un peu choisir? T'sais, vous parlez de gens qui sont malades, des femmes, est-ce que quand on embarque là-dedans, on doit accepter un peu n'importe qui ou on peut un petit peu choisir?
Ah, c'est une bonne question. En fait, présentement, on a à peu près 100 propriétaires qui sont investis dans le programme Porte-Clés avec nous. Puis, c'est des gens qui ont une vocation, qui veulent aider leur prochain. C'est des gens qui ont eu des parcours des fois difficiles puis ils veulent tendre la main à d'autres personnes. C'est des gens qui décident d'avoir une vocation sociale. Puis, je vous dirais qu'on a des agents au logement. Leur travail, c'est de vraiment faire un bon pairage. Fait qu'il y a une discussion qui est faite avec les propriétaires pour connaître leurs limites. Qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas vivre aussi? On essaie de jumeler un propriétaire et la personne pour vivre une réussite. L'accompagnement est vraiment hyper important. Puis ce qu'on offre aux propriétaires, c'est quelque chose de précieux, c'est de l'accompagnement et du support. Fait que dès le début, nos agents logement sont les personnes ciblées pour quand il arrive une difficulté. Les propriétaires ont quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour appeler, pour dire « là, c'est difficile avec la personne, il y a des conflits avec les voisins, il y a des bris dans le logement, qu'est-ce qu'on peut faire? » Fait que c'est vraiment un travail d'équipe avec les propriétaires. Sans eux, le projet n'existerait pas. Mm-hmm. Ça prend des propriétaires qui sont engagés, qui travaillent comme le sport, un trio gagnant. Ouais. Les intervenants, la personne et les propriétaires, c'est ce qui fait le trio gagnant. C'est que les propriétaires, ils sont assurés d'avoir quelqu'un, puis on est là du début à la fin. Des fois, quand il n'y a pas une réussite, ça arrive que les gens perdent leur logement. Je disais 85 % des gens gardent leur logement. Le 15 % bien, on est là jusqu'à la fin. Quand la personne ne peut plus garder son logement, on va aider les propriétaires aussi à vider le logement, à s'assurer de remettre le logement en bon état. On va jusque-là aussi dans le programme porte-clés. Fait que c'est ce qui fait une différence. C'est ce qui fait aussi que les propriétaires, quand les gens quittent, ils acceptent qu'on reloue encore les logements pour des personnes en situation d'itinérance. Le fait qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on fasse partie des solutions, c'est vraiment précieux pour les propriétaires.
Puis, on ne se fera pas de cachette que des programmes comme Pêche, comme le programme Porte-Clés, sur lesquels on met l'emphase aujourd'hui, ça prend des sous, ça prend de l'argent pour mettre ça en place. Au niveau monétaire, comment ça va?
Quelle excellente question. En fait, dans la dernière année, on a été chanceux. La Fondation Dufresne Gauthier, la famille Choquette a mis beaucoup d'énergie. Le maire Marchand fait des démarches aussi pour avoir des sous. On a été bonifié pour 4 ans de par cette démarche-là qui a permis d'augmenter les sommes. Mais ça en prend d'autres encore. Ça en prend encore suffisamment. Il y a encore beaucoup de gens dans la rue. Puis présentement, quelqu'un dans la rue, ça coûte 72 000 $. Quand on donne une subvention, un accompagnement dans la rue, ça en coûte 22 000.
Alors, calcul est facile à faire.
Le calcul est facile à faire. Alors, comme société, on va devoir faire des choix. Puis l'itinérance est en augmentation. Puis Marie-Ève, tantôt, on se parlait, puis on se disait, bien, tu sais, la crise du logement, c'est réel à Québec. Puis les gens tombent dans la faille de l'itinérance parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de possibilité de s'intégrer dans un logement. Fait qu'ils se retrouvent à la rue. Puis quand on retombe dans la rue, des problématiques diverses apparaissent. La consommation, le problème de santé mentale, la peur des traumatismes présents qui vivent des choses qui sont difficiles. Sortir de la rue, c'est complexe.
En 2026, très complexe.
Très, très complexe. Ouais. Fait que je vais te laisser parler d'exemples concrets de situations qui sont vécues par notre programme aussi.
Bien, parce qu'on a quand même des réussites. Là. On était dans ce qui était plus difficile, mais il y a quand même des belles réussites dans le programme porte-clés. Puis j'avais envie de vous parler peut-être de deux types, de deux profils types là, qu'on accompagne. Là. Ça me fait penser à, mettons, un jeune qui fréquente présentement des ressources en itinérance quand on l'a rencontré. Donc, il se promenait dans les différents refuges à Québec. Quelqu'un qui a connu des familles d'accueil, le centre jeunesse, là, les refuges, qui fait la porte tournante un peu avec la détention. Mais depuis que cette personne-là est rentrée en logement, il a pu renouer avec ses parents, avec ses frères, s'est trouvé un emploi. Puis là, on est rendu vraiment ailleurs avec cette personne-là où on parle de qu'est-ce qui le fait triper puis de quoi il rêve aussi. Fait que là, on l'accompagne dans quelque chose de vraiment différent parce qu'il a réussi à trouver de la sécurité puis de la stabilité qui lui permet de pouvoir rêver à nouveau.
T'sais. Parce que quand nos besoins de base sont comblés, bien, là, on peut se permettre de s'épanouir,
c'est
de,
comme
de
si
rêver.
C'est comme dans le, oui. Tu sais, quand on passe de la survie à la vie. Oui. Fait que là, cette personne-là recommence à vivre puis retrouver puis connecter son essence.
Puis, tu nous parles d'un jeune. Est-ce oui. qu'il y a des âges qui, pour qui c'est plus fréquent ou ça peut vraiment être des personnes de tous les âges? Parce que les jeunes, on sait que les jeunes de la DPJ, notamment oui. ceux qui ont fréquenté le système, sont plus à risque oui. après ça d'être mm-hmm. en situation oui. d'itinérance. Oui. Est-ce qu'ils sont surreprésentés dans votre programme?
Présentement, je vous dirais que non. Là, c'est sûr que le programme s'adresse à, Nathalie tantôt disait, quand on jasait 18-100 ans, là, ouais. fait que c'est à tout le monde. On avait fait une moyenne d'âge qui était plus autour de, maintenant, mi-quarantaine. Là, cette moyenne d'âge-là, elle a un peu diminué. Puis en même temps, on comprend que quand quelqu'un sort, mettons, des centres jeunesse d'un parcours de la DPJ, peut-être que son premier désir en sortant de là, c'est peut-être d'avoir de la liberté aussi
oui.
pendant un temps, mm-hmm. de vivre ses propres expériences.
Parce que ça peut être un peu contraignant aussi. Bien, quand tu embarques dans le programme, tu acceptes d'être
encadré.
D'avoir
un intervenant, d'avoir ouais. un encadrement, d'y donner accès à ton intimité, à ton domicile. Fait que, tu sais, on comprend que peut-être dans les premières années, les gens ont besoin de vivre leurs propres expériences pour après qu'on puisse les aider. Ceci étant dit, il y a un profil aussi qu'on voit maintenant, qu'on voyait peut-être moins avant. Là, je pense... un peu un classique que j'ai rencontré l'automne dernier, d'hommes qui sont justement dans la mi-quarantaine, près de la cinquantaine, qui ont toujours fonctionné. Je pense à une personne en particulier qui avait sa maison avec sa femme, ses loisirs, ses enfants, son auto, son permis de conduire, puis qui a vécu un événement, une rupture, ça a commencé à aller moins bien au travail, a eu une perte d'emploi, a vécu dans sa voiture, perte de permis de conduire, perte de voiture parce qu'il n'est plus capable de la payer, atterri pour une première fois à l'Aube-Rivière à la mi-quarantaine et qui n'est plus capable d'en sortir. Parce qu'on se le disait tantôt, il y a une crise de logement abordable mm-hmm. présentement. Des fois, quand tu ne fites pas dans la bonne petite case, c'est dur de recevoir des services aussi. Fait que ces personnes-là, maintenant, là, qui atterrissent pour une première fois à l'Aube-Rivière puis qui, normalement, auraient ce qu'il faudrait pour pouvoir rebondir, puis qui, là, dans le contexte présentement, ça ne fonctionne plus.
Mais
là.
T'sais, imaginez deux secondes, puis je trouve ça excessivement triste. Mm-hmm. Mais je trouve que l'image est forte pour les auditeurs et les auditrices en ce moment de montrer à quel point, quand on vous dit dans les dernières années que le visage de l'itinérance est en train de changer, oui. l'exemple que tu viens de donner, oui. c'est exactement le trois situations oui. ou trois mauvaises décisions mm-hmm. ou trois épreuves un peu hors de notre contrôle oui. qui peuvent arriver rapidement. Séparation, perte d'emploi, oui. Puis là, finalement, on se retrouve du côté de l'Aube-Rivière.
Oui.
Puis c'est sûr que c'est des ressources dont on a besoin dans notre ville, mais en même temps, ça aussi, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. C'est sûr que quand on se retrouve dans des endroits comme à l'Aube-Rivière, ça peut arriver qu'on soit rapidement mis dans un contexte où on va côtoyer des gens qui ont des problèmes de toxicomanie aussi, puis là, ben ta vie va pas bien nécessairement. Fait qu'est-ce que... tu sais, tout ça devient un engrenage. C'est un peu ouais. ça que je veux dire, sans rentrer trop dans les détails non plus, mm-hmm. puis je veux vraiment pas tomber dans le préjugé, c'est pas ça. Mais on le sait que c'est pas simple à Absolument. Ce niveau-là. Ça montre, je trouve, à quel point il y a personne qui est à l'abri non. au moment où on se parle.
Tu sais, quand on peut offrir de la stabilité, cette personne-là, présentement, est retournée, elle aussi, sur le marché du travail, puis ça va bien. En fait, on la voit presque plus, parce que ça va bien, puis parce qu'elle a pu se rétablir, parce qu'elle a eu un logement, puis qu'elle a pu, elle aussi, avoir une stabilité, puis rebondir.
C'est correct de mettre un genou à terre dans la vie. Ça, mm-hmm. ça arrive à tout le monde aussi. Mais ça arrive des situations où est-ce que tu mets un genou à terre, puis quand tu essaies de te relever, tu n'es pas capable de le faire toute seule, puis là, tu as mm-hmm. besoin d'avoir juste quelqu'un qui va te tendre la main, puis qui va t'aider. Puis là, vous pouvez entrer en action, justement, oui. puis redonner, justement, juste le petit coup à cette personne-là pour rebondir, comme tu disais. Il y a beaucoup de textos qui rentrent. Clairement, ça fait réagir que vous soyez en studio avec vous aujourd'hui. Mesdames, je le rappelle, on est avec Nathalie Giguère, qui est directrice générale adjointe chez Pêche, et Marie-Hélène Ouellette, qui est coordonnatrice du programme Porte-clés, qu'on apprend à découvrir aujourd'hui, qui est un programme justement qui aide les gens à retourner en appartement.
Oui.
Content d'apprendre qu'on a des propriétaires à Québec qui décident d'embarquer dans ce projet-là. Mais ça fait tellement jaser qu'on a reçu un beau texto que j'ai envie de vous lire. Félicitations à nos deux invités. Ayant peu de moyens financiers et n'étant pas propriétaire, est-il possible de faire du bénévolat auprès d'eux? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que vous avez besoin de main-d'œuvre aussi?
Bon. Bien, c'est sûr qu'on a besoin d'aide. Des fois, c'est des affaires qui sont peut-être pas sexy, je vais dire ça comme ça, mais tu sais, présentement, tantôt, je parlais, on aide les personnes à s'installer dans le logement.
C'est
on a
ça.
Besoin de bras, des fois.
Déménager, là, installer des rideaux.
Installer, monter des bases de lit, des fois, faire des réparations mineures aussi. On a besoin de ça. Ça peut arriver qu'une personne brise des panneaux d'armoire ou... comment est-ce qu'on peut avoir accès? Fait que oui, on a besoin quand même.
Puis le point de chute à ce moment-là pour entrer en contact avec vous du côté du programme Porte-clés, est-ce que c'est via le site Internet? Est-ce que c'est de communiquer directement avec vous? À quel endroit on peut avoir vos infos, vos coordonnées?
On peut communiquer directement à l'organisme Pêche en demandant de parler à la coordonnatrice du programme Porte-clés. On peut visiter le site Internet aussi qui est facilement accessible quand on fait une recherche Google, sinon le numéro de téléphone 418-523-2820.
28-20, ça se retient bien. Puis c'est infopêche.org,
oui,
le site Internet. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin, mesdames, parce que je le sais que c'est peut-être pas un sujet qui est léger pour un vendredi. Comme tu le disais, c'est peut-être pas le sujet qui est le plus sexy, mais en même temps, ça fait partie de notre réalité. Mm-hmm. Puis ça, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y en a pas de vendredi dans des situations comme celle-là. Si je pouvais vous laisser le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs ou aux auditrices de Boulevard qui sont à l'écoute en ce moment?
Écoutez, le programme Porte-clés, moi, la fierté de ce programme-là, c'est de voir des gens qui ont la honte dans la rue. Puis après un an, comment ces gens-là, ils ont un visage souriant, heureux, confiant, heureux de leur avoir tendu la main, de vivre en appartement, d'avoir d'autonomie, d'être stable. C'est tellement une belle richesse de voir le regard de ces personnes-là. Ça fait ma paye à tous les jours quand je les vois après un an. C'est assez impressionnant.
C'est vraiment beau d'entendre ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour votre temps. Fait que je vous présente à nouveau Nathalie Giguère, directrice adjointe chez Pêche, et Marie-Ève Ouellette, qui est coordonnatrice du programme Porte-clés, le infopêche.org. Si jamais vous êtes propriétaire, vous avez entendu cette entrevue-là, puis vous vous dites ça me parle, ça, j'aimerais ça, moi aussi, donner un coup de main dans ma ville, faire une différence. Vous êtes un multimillionnaire à l'écoute, vous vous dites j'aimerais ça, moi aussi, être mécène pour un si beau projet.
Oui.
Pourquoi pas? Infopêche.org aussi.
Oui.
Et si vous êtes quelqu'un à l'écoute actuellement, puis vous connaissez quelqu'un dans le besoin qui aurait besoin juste d'une petite tape dans le dos pour rebondir, le programme Porte-clés existe. Merci vraiment beaucoup, mesdames, pour votre temps. Merci, Antonine, d'avoir trouvé ces deux perles-là. C'est exactement pour ça que je fais de la radio dans la vie, le moment qu'on vient de vivre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir à Boulevard 102 aujourd'hui.
Merci. Le retour.